Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Audiolib présente L'Outsider de Stephen King. Traduit de l'anglais par Jean Hesch. Lu par Philippe Résimont. Pour Rand et Judy Alston. La pensée ne confère au monde une apparence d'ordre que pour ceux qui ont la faiblesse de croire à ses faux semblants. Colin Wilson, The Country of the Blind. Première partie. L'arrestation. 14 juillet. C'était une voiture banalisée, une berline américaine quelconque, plus très jeune. Mais les pneus à flanc noir et les trois hommes à l'intérieur en trahissaient la nature. Les deux assis à l'avant portaient des uniformes bleus. Celui à l'arrière, en costume, était un colosse. Deux jeunes noirs se tenaient sur le trottoir, l'un le pied posé sur un skate orange éraflé, l'autre avec le sien, couleur citron vert, sous le bras. Ils regardèrent la voiture pénétrer sur le parking du parc de loisirs Estelle Barga, puis échangèrent un regard. Le premier dit « C'est les flics ?»« Sans blague, » répondit l'autre. Ils s'en allèrent sans rien ajouter sur leur skate. La règle était simple. Lorsque les flics débarquent, il faut filer. La vie d'un noir compte autant que celle d'un blanc, leur avaient appris leurs parents, mais pas forcément aux yeux de la police. Dans l'enceinte du stade de baseball, le public se mit à pousser des acclamations et à taper dans ses mains en rythme quand les Golden Dragons de Flint City revinrent à la batte au début de la 9e manche en comptant un point de retard. Les deux garçons ne se retournèrent pas. 2. Déposition de M. Jonathan Ritz, 10 juillet, 21h30, interrogé par l'inspecteur Ralph Anderson. Inspecteur Anderson. Je sais que vous êtes bouleversé, Monsieur Ritz. C'est compréhensible, mais j'ai besoin de savoir très précisément ce que vous avez vu en début de soirée. Ritz. Je ne pourrai jamais l'oublier. Jamais. Je ne serais pas contre avaler un cachet. Du Valium, peut-être. Je n'ai jamais pris ce machin-là, mais là, il le faut. J'ai encore l'impression d'avoir le cœur au bord des lèvres. Dites à vos gars de la police scientifique que s'ils trouvent du vomi, et je parie qu'ils en trouveront. C'est le mien. Et je n'en ai pas honte. N'importe qui aurait rendu son dîner en voyant un truc pareil. Inspecteur Anderson.
Je suis sûr qu'un médecin vous prescrira un calmant dès qu'on aura terminé.
Je m'en charge. Mais en attendant, je préfère que vous gardiez les idées claires. Vous comprenez, hein? Ritz. Oui, oui, bien sûr.
Inspecteur Anderson. « Racontez-moi simplement tout ce que vous avez vu et on en restera là pour ce soir. Vous pouvez faire ça pour moi, monsieur ?»
Ritz. « Ok. Je suis sorti promener Dave sur le coup de 6h. Dave, c'est notre beagle. Il avait mangé à 5h. Ma femme et moi, on dîne à 5h30. À 6h, Dave est prêt à aller faire ses besoins. La petite et la grosse commission. Je le promène pendant que Sandy, ma femme, fait la vaisselle. Un partage équitable des tâches. » C'est capital dans un couple, surtout une fois que les enfants sont devenus grands. C'est comme ça qu'on voit les choses, mais je m'égare là, non?
Inspecteur Anderson.
Pas de problème, monsieur Ritz. Racontez à votre manière.
Ritz.
Je vous en prie, appelez-moi John. Je ne supporte pas qu'on me donne du monsieur Ritz. J'ai l'impression d'être un gâteau apéritif. Les autres m'appelaient comme ça à l'école. Cracker Ritz.
Inspecteur Anderson.
Je vois. Donc vous promeniez votre chien?
Ritz.
Exact. Et quand il a senti une forte odeur, l'odeur de la mort, je suppose, il a fallu que je tire sur sa laisse, à deux mains. Et pourtant, c'est pas un gros chien. Il voulait absolument aller voir ce que c'était, le...
Inspecteur Anderson. Revenons un peu en arrière, si vous voulez bien. Vous êtes sorti de votre domicile au 249 Mulberry Avenue à 18h.
Ritz. Peut-être un peu avant.
Dave et moi, on est descendu jusque chez Gerald. C'est l'épicerie fine au coin de la rue. Puis on a remonté Barnum Street. Et ensuite, on est passé par Figgis Park. Celui que les gamins appellent Frigus Park.
Frig comme baiser.
Ils croient que les adultes ignorent ce qu'ils se racontent. Qu'on ne fait pas attention, mais on écoute. Certains d'entre nous, du moins.
Inspecteur Anderson. C'était votre promenade habituelle?
Ritz. Oh, des fois on change un peu, pour ne pas se lasser. Mais on finit presque toujours par le parc. C'est plein d'odeurs que Dave adore renifler. Il y a un parking, presque toujours désert à cette heure-ci. Sauf quand des lycéens jouent au tennis. Mais il n'y en avait pas ce soir-là, car les cours sont en terre battue, voyez-vous. Et il avait plu un peu plus tôt. Le seul véhicule était une camionnette blanche.
Inspecteur Anderson.
Une camionnette commerciale?
Ritz. Oui, voilà. Sans fenêtre sur les côtés, avec une porte à double battant à l'arrière, comme celle qu'utilisent les artisans pour transporter tout leur matériel. C'était peut-être une Econoline, mais je ne pourrais pas le jurer.
Inspecteur Anderson. Y avait-il un nom de société marqué dessus, genre climatisation machin ou fenêtre sur mesure truc-muche?
Ritz. Non, rien du tout. Par contre, elle était sale, ça, je peux vous le dire. Ça faisait un moment qu'elle n'avait pas été lavée. Et il y avait de la boue sur les pneus, sans doute à cause de la pluie. Dave les a reniflés. Et puis on a pris une des allées de gravier entre les arbres. Après 500 mètres environ, Dave s'est mis à aboyer et il a filé dans les buissons sur la droite. C'est à ce moment-là qu'il a flairé l'odeur. La laisse a failli m'échapper. J'ai voulu le ramener vers moi. Impossible, il tirait de toutes ses forces et il grattait la terre avec ses pattes en aboyant. J'ai réussi à le faire revenir. J'ai une laisse rétractable, c'est très pratique parfois, et je l'ai suivi. Maintenant que ce n'est plus un chiot, il s'intéresse moins aux écureuils et aux tamias, mais j'ai pensé qu'il avait peut-être senti un raton laveur. Je voulais l'empêcher de se jeter dessus, que ça lui plaise ou non. Un chien doit savoir qui commande. C'est là que j'ai vu les premières gouttes de sang, sur une feuille de bouleau, à hauteur de poitrine, soit à environ 1,50 m du sol. Il y avait une autre goutte de sang sur une feuille un peu plus loin et une grosse éclaboussure dans des buissons plus loin encore. Du sang encore frais, bien rouge. Dave l'a reniflé, mais il voulait continuer à avancer. Ah, avant que j'oublie, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai entendu un bruit de moteur derrière moi. Je l'ai remarqué parce qu'il faisait un sacré boucan, comme si le pot d'échappement était foutu. Une sorte de grondement, vous voyez?
Inspecteur Anderson.
Oui, je vois.
Ritz.
Je ne peux pas jurer que ça venait de cette camionnette blanche, et comme je ne suis pas repassé par là, j'ignore si elle était toujours là ou pas. Et vous savez ce que ça veut dire?
Inspecteur Anderson.
Dites-le-moi, John.
Ritz.
Ça veut dire qu'il m'observait, si ça se trouve. Le meurtrier. Il était caché derrière les arbres et il m'observait. Rien que d'y penser, j'en ai les frissons. Après coup, sur le moment, j'étais concentré sur les taches de sang. Et sur Dave qui allait m'arracher le bras à force de tirer. Je commençais à avoir la trouille. J'ai pas honte de l'avouer. Je suis pas très costaud, et même si j'essaye de m'entretenir, j'ai la soixantaine maintenant. Remarquez, à 20 ans, j'étais pas très intrépide non plus. Mais il fallait que j'aille voir, au cas où quelqu'un aurait été blessé.
Inspecteur Anderson. Intention louable. Quelle heure était-il quand vous avez découvert cette piste de sang?
Ritz.
Je n'ai pas regardé ma montre, mais je dirais 6h20, 25 peut-être. J'ai laissé Dave passer devant, en le tenant court pour pouvoir me glisser entre les branchages pendant que lui se faufilait en dessous avec ses petites pattes. Vous savez ce qu'on dit des beagles? Ils ont le tuyau près du gazon. Bref, il continuait à aboyer furieusement. On a débouché dans une petite clairière, une sorte de recoin où les amoureux viennent s'asseoir et se bécoter. Et il y avait un banc en pierre au milieu, couvert de sang. Partout, même dessous. Le corps était allongé à côté dans l'herbe. Pauvre garçon, il avait la tête tournée vers moi, les yeux ouverts. Mais il n'avait plus de gorge, juste un trou rouge à la place. Son jean et son slip étaient baissés sur ses chevilles et j'ai vu quelque chose. Une branche morte qui sortait de son... Enfin, vous avez compris.
Inspecteur Anderson.
Oui.
Mais j'ai besoin que vous le disiez, monsieur Ritz, pour l'enregistrement.
Ritz.
Il était couché sur le ventre et la branche sortait de son postérieur. Il y avait du sang là aussi, sur la branche. Il manquait une partie de l'écorce et on apercevait une empreinte de main. Je l'ai bien vu,
Dave n'aboyait plus. Il hurlait à la mort, le pauvre. Je ne sais pas qui peut faire une chose pareille. Un fou, forcément. Vous allez l'arrêter, inspecteur ?
Inspecteur Anderson. Oh oui, on va l'arrêter. 3. Le parking du parc Estelle Barga était presque aussi grand que celui du supermarché Kroger, où Ralph Anderson et son épouse faisaient leurs courses le samedi après-midi. Et en cette soirée de juillet, il était plein. De nombreux pare-chocs arboraient des autocollants en couleur des Golden Dragons. Et quelques vitres arrière s'ornaient de slogans délirants. « On va vous écraser. Les dragons vont calciner les ours. Cap City, nous voici. Cette année, c'est notre tour. » Du stade, où les projecteurs avaient été allumés, alors qu'il faisait encore jour, montaient des acclamations et des claquements de mains. Troy Ramage, 20 ans dans la police, conduisait la voiture banalisée et parcourait les rangées de véhicules serrés comme des sardines.
« Chaque fois que je viens ici, dit-il, je me demande qui était cette fichue Estelle Barga. »
Ralph ne répondit pas. Ses muscles étaient tendus, sa peau brûlante, et il sentait sa tension monter en flèche. Il avait arrêté un grand nombre de criminels dans sa carrière, mais là, c'était un cas particulier, particulièrement affreux, et surtout, personnel. En vérité, il n'avait aucune raison de participer à cette arrestation, et il le savait. Mais à cause de la nouvelle salve de coupe budgétaire, il n'y avait plus que 3 inspecteurs à temps plein inscrits au tableau de service de la police de Flint City. Jack Hoskins était en vacances. Il pêchait quelque part dans un trou paumé. Bon débarras. Betsy Riggins, qui aurait dû être en congé maternité, prêtait main forte à la police d'État dans le cadre de l'opération de ce soir. Il espérait qu'il n'allait pas trop vite en besogne. Une crainte dont il avait fait part à Bill Samuels, le procureur de Flint County, pas plus tard que cet après-midi, à la réunion précédant l'arrestation. Âgé de seulement 35 ans, Samuels était un peu trop jeune pour ce poste. Mais il appartenait au bon parti, et il ne manquait pas d'assurance. Arrogant, non, mais impétueux, c'est certain. « Il reste quelques trucs qui ne collent pas à vérifier », lui avait dit Ralph. « On ne connaît pas tous ses antécédents, et sauf s'il décide d'avouer, il affirmera avoir un alibi, à coup sûr. » « Dans ce cas, avait répondu Samuels, on démontra son alibi, vous le savez bien. » Ralph n'avait pas le moindre doute à ce sujet. Il tenait le coupable, il en était certain. Néanmoins, il aurait aimé qu'il continue à enquêter avant de presser la détente, pour trouver les failles dans l'alibi de ce salopard et les élargir jusqu'à ce qu'on puisse y faire passer un camion, avant de l'arrêter. Dans la plupart des affaires, cette procédure se serait imposée. Pas ici. « 3 choses !» avait ajouté Samuels. « Vous êtes prêt à m'écouter ?» Ralph avait acquiescé. Après tout, il était obligé de travailler avec ce gars. « Premièrement, les habitants de cette ville, et plus particulièrement les parents de jeunes enfants, sont terrorisés et furieux. Ils exigent une arrestation rapide afin de se sentir à nouveau en sécurité. Deuxièmement, la culpabilité de cet homme ne fait aucun doute. Je n'ai jamais vu un dossier aussi solide. Vous êtes d'accord ?»«
Oui. »
« Bien. Raison numéro 3, la plus importante. » Samuels s'était penché vers lui. « On ne peut pas prouver qu'il a déjà commis ce genre de crime. Si c'est le cas, on le découvrira très certainement dès qu'on commencera à creuser. Mais on a la certitude qu'il a commis celui-ci. Il s'est lâché. Il a balancé son pucelage. Et maintenant qu'il y a pris goût,
il pourrait recommencer. »
« Exact. » Ce n'est pas le scénario le plus vraisemblable, si peu de temps après le meurtre du petit Peterson, mais c'est une possibilité. Il côtoie des enfants en permanence, des jeunes garçons. Si par malheur il en tue un autre, non seulement on perdra notre boulot, vous et moi, mais on ne se le pardonnera jamais.
Ralph avait déjà du mal à se pardonner de n'avoir rien vu venir. C'était une réaction irrationnelle. On ne peut pas.
En regardant un homme dans les yeux à l'occasion d'un barbecue pour fêter la fin de la saison de la Little League, devinez qu'il est sur le point de commettre un acte innommable, qu'il cajole ce projet, le nourrit, le regarde grandir. Mais cela ne changeait rien à ce qu'il ressentait. Se penchant en avant pour tendre le doigt entre les deux policiers assis à l'avant, Ralph dit « Essayons les places réservées aux handicapés là-bas. » L'agent Tom Yates, assis sur le siège du passager, répondit « $200 d'amende, chef. Je crois que ça passera pour cette fois. Je plaisantais. »
N'étant pas d'humeur à supporter l'humour de flic, Ralph ne dit rien.
« Place pour Kudjat en vue !» annonça Ramage. « J'envoie deux de libre !»
Il se gara sur l'un des deux emplacements et les trois hommes descendirent de voiture. Voyant Yates ôter la patte de sécurité de l'étui de son Glock, Ralph secoua la tête.
« Vous êtes dingue ou quoi? Il y a 1500 spectateurs. Et s'il s'enfuit? Vous le rattraperez. »
Ralph s'appuya contre le capot du véhicule banalisé et regarda les deux officiers de la police de Flint City se diriger vers le terrain de baseball. La lumière et les gradins bondés, où les acclamations et les claquements de mains continuaient à enfler. La décision d'arrêter rapidement le meurtrier du petit Peterson avait été prise conjointement par Samuels et lui-même, à contre-cœur. Mais lui seul avait décidé de l'arrêter pendant le match. Ramage se retourna.
« Vous venez ?»« Non. Faites ce que vous avez à faire. Lisez-lui ses droits bien comme il faut, à voix haute, et ramenez-le ici. Tom, vous montrez à l'arrière avec lui. Moi, je monterai devant avec Troy. Bill Samuels attend mon appel. » Il sera déjà au poste quand on arrivera. On reste pro jusqu'au bout. Pour ce qui est de l'arrestation, je vous laisse faire.
C'est votre enquête ? Dit Yates.
Vous ne voulez pas être celui qui a arrêté cette ordure ?
Les bras toujours croisés, Ralph répondit.
L'homme qui a violé Frankie Peterson avec une branche et l'a égorgé a entraîné mon fils pendant 4 ans. Il a posé ses mains sur lui pour lui montrer comment tenir une batte. Alors je ne me fais pas confiance.
Pigé.
Dit Troy Ramage. Yates et lui repartirent vers le terrain.
Hé hey, écoutez-moi tous les deux.
Ils se retournèrent.
Passez-lui les menottes sur place et menottez-le devant. Ce n'est pas conforme au protocole, chef,
fit remarquer Ramage.
Je sais et je m'en fous. Je veux que tout le monde voie la police l'emmener avec les menottes au poignet, c'est compris?
Tandis que les deux agents s'éloignaient. Ralph décrocha son portable fixé à sa ceinture. Il avait enregistré le numéro de Betsy Riggins dans ses contacts.
« Tu es en position ?»«
Oui, je suis garé devant chez lui, avec 4 State Troopers. »«
Et le mandat de perquisition ?»«
Dans ma petite main brûlante. » »«
Parfait. » Ralph allait couper la communication quand une pensée lui vint.
« Au fait, Bets, quand dois-tu accoucher ?»«
Hier. Alors, maniez-vous, les gars. »
Ce fut elle qui raccrocha.